Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
Dans notre grande diversité, là, tous les maires de France, on a au moins un point commun, c'est qu'on ne croit plus au Père Noël.
Les maires sont-ils réconciliés avec le président? Question ce soir, après le discours fleuve d'Emmanuel Macron devant leur congrès annuel. Jugez-moi sur les actes, leur demande le président.
Dans l'actualité aussi ce soir, l'ouverture du procès du premier attentat djihadiste commis en prison. C'était en 2016.
Quand les compagnies aériennes tentent de se verdir, EasyJet par exemple annonce qu'elle va compenser ses émissions carbone. Prendre l'avion peut-il donc devenir moins polluant? On vous explique tout dans un instant.
Et puis... on ira, pardonnez-moi, à Madrid. On y va ensemble, Sébastien, si vous voulez. Où l'équipe de France de tennis a connu des débuts laborieux en Coupe Davis. Victoire malgré tout d'une première rencontre contre le Japon.
La météo, la tendance, Anissa.
Alors demain, beaucoup de brume et de brouillard le matin sur une grande partie de la France. Soyez très prudents et toujours un département vigilance orange cru. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'opération réconciliation a-t-elle fonctionné à 4 mois des municipales? C'était tout l'enjeu de ce long discours prononcé par Emmanuel Macron devant le congrès des maires de France cet après-midi. Congrès qu'il avait boudé l'an dernier. Le président de la République qui, dans la lignée du grand débat, a tenté de retisser les liens.
Je veux être jugé sur les actes. Les actes, c'est une augmentation de la couverture numérique du territoire inédite. Les actes, c'est l'ouverture des 460 premiers France Service en janvier 2020. 2000 nouveaux cafés dans nos petites villes d'ici quelques mois dans le cadre de l'agenda rural. Les actes, c'est la transformation en cours des logements des centres-villes et des quartiers. Le choix résolu de privilégier le commerce de proximité pour revitaliser les centres-villes. Les actes, ce sont les 42 quartiers de reconquête républicaine qui bénéficient de renforts policiers spécifiques. C'est en train de se déployer, cela va continuer d'arriver. Et c'est une transformation indispensable.
Emmanuel Macron face au maire de France, propos recueillis par Jean-Rémy Baudot.
Alors la question, c'est évidemment de connaître la réaction des maires ce soir. Hélène Terzian a posé la question à deux d'entre eux après le discours. L'un est sans étiquette, l'autre divers droite. Réaction.
Alors convaincu, non, c'est pas tout à fait le terme. Mais ceci dit, dans notre grande diversité, là, tous les maires de France, on a au moins un point commun, c'est qu'on ne croit plus au Père Noël, ni les uns ni les autres. On attendait un discours... De repositionnement d'un État décentralisé dans lequel les collectivités aient leur place, y compris les communes rurales d'ailleurs. On doit avoir notre place aussi dans la République et c'était ce genre de discours qu'on attendait.
Je pense qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé l'année dernière, les Gilets jaunes, le grand débat, il a analysé la situation en voyant que les maires pouvaient être pour lui un recours sur le territoire pour arrêter ces fractures territoriales et recoudre les territoires qui se sentaient un peu éloignés de la République.
Parole de deux élus recueillis donc à la porte de Versailles au congrès des maires de France par Hélène Terzian. Et lors de ce discours, Emmanuel Macron a annoncé que de nouvelles mesures contre le communautarisme seraient dévoilées dans les prochaines semaines pour viser notamment l'islam politique. Il rejette en revanche l'idée d'une interdiction des listes électorales communautaires, interdiction qui ne réglerait pas le problème selon lui. Le poids du camion en Haute-Garonne semble bien être la cause apparente et directe de l'effondrement du pont de Mirepoix sur le Tarn, confirme ce soir du procureur. Son poids est estimé à plus de 50 tonnes, bien supérieur à la limite autorisée de 19 tonnes.
Le procès Sébastien de la première attaque terroriste commise en prison, il s'est ouvert ce matin.
Bilal Taghi est jugé devant la cour d'assises de Paris pour avoir en 2016 voulu poignarder à mort un surveillant de sa prison au nom du djihad parce qu'il représentait l'État français. Une attaque préméditée et qu'il a toujours revendiqué jusqu'ici, mais à l'audience, son attitude semble avoir changé. Chloé Trian, vous l'avez suivi.
Effectivement, derrière son box vitré de la cour d'assises, Bilal Taghi fait de son mieux pour répondre aux questions. À mi-chemin entre la confusion, les larmes et la colère, il admet pour la première fois que son geste est impardonnable. Des mots à la fois espérés par les victimes, mais elle n'ose pas encore vraiment y croire, comme l'explique Maître Marion Ménage.
Je ne sais pas si ça pose question, si on doit y croire, si disons qu'il est quand même très opportuniste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans une cour d'assises et une fois qu'on encourt perpétuité, ça peut tout d'un coup donner envie de pleurnicher un petit peu.
Cette suspicion, elle vient du fait que Bilal Taghi avait déjà trompé son monde lorsqu'il était incarcéré avant l'agression. Il était l'un des volontaires de ces unités dédiées aux islamistes radicaux. Mais comme il le dit aujourd'hui, c'était de l'expérimentation. On avait l'impression, dit-il, d'être des rats de laboratoire. On faisait du yoga, de la relaxation. Que des gens qui pensent pareil rassemblés tous ensemble, ça ne donnait pas envie de changer. Mais depuis, affirme l'accusé, il a réellement évolué grâce à un travail d'introspection depuis 2 ans.
Chloé Triomphe, aux assises de Paris pour Europe 1 à l'étranger. Le parquet suédois annonce qu'il abandonne les poursuites pour viol contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui était accusé par une femme de l'avoir agressé en Suède en 2010 et qui avait fui par la suite en Grande-Bretagne. Et puis des violences en Iran. Selon Amnesty International, une centaine de manifestants auraient été tués dans une vingtaine de villes dans des protestations qui ont fait suite à une hausse des prix de l'essence. L'ONU évoque des tirs à balles réelles contre les manifestants.
Les compagnies aériennes se mettent au vert, on en parle ce soir sur Europe 1. EasyJet annonce précisément qu'elle va compenser ses émissions polluantes.
Elle se vante, cette compagnie, d'être la première à atteindre la neutralité carbone. Et elle n'est pas la seule, Aurélien Fleurot, à se verdir comme ça. Compenser la pollution des avions, c'est réel ? Ou c'est de la com ?
Alors, c'est clairement une réponse au mouvement global de honte de prendre l'avion qui est parti de Suède. Et là, EasyJet parle en fait de compensation carbone, ce qui veut dire soutenir financièrement des projets verts comme la reforestation ou la production d'énergie renouvelable. 30 millions d'euros investis en 2020. Alors, c'est une pratique qui est souvent critiquée comme une sorte de droit à polluer par les ONG environnementales. Mais cela permet tout de même d'afficher un réel impact neutre en carbone si on prend en compte tous les vols de la compagnie. Ces mesures sont présentées comme temporaires avant de mettre au point une technologie capable de faire voler des avions hybride ou électrique. Et c'est pour ça qu'un protocole d'accord a aussi été annoncé avec Airbus pour lancer à grande échelle sur le marché une nouvelle génération d'avions propres. Mais ça va prendre des années. Et d'ici là, les compagnies multiplient les initiatives pour réduire leur impact CO2 en optimisant les trajectoires de vol, ça s'appelle l'éco-pilotage, ou encore en allégeant le poids des sièges, et puis surtout en investissant dans des avions plus modernes. Les nouveaux A350 d'Air France, par exemple, eh bien, ils émettent 25% de CO2 en moins.
Précision très claire, ce soir est nécessaire, d'Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1.
Et le tennis maintenant, les Français ont fait leur entrée dans cette fameuse nouvelle Coupe Davis dont on parlait déjà hier avec Corinne Boulou, elle nous expliquait ce matin.
Cette nouvelle formule à Madrid qui va durer une semaine. Corinne Boulou, on vous retrouve sur place en direct. Première victoire engrangée donc pour les Bleus contre le Japon. Mais alors ce fut plutôt laborieux.
Oui, au bout de 6h30 en 3 matchs, une victoire 2-1 face au Japon à l'issue d'une journée qui avait commencé dans un silence de cathédrale pour l'arrivée des deux équipes devant un public clairsemé, des hymnes japonais puis français qui sonnaient creux devant moins de 500 personnes sur le court numéro 2 qui peut en contenir 3400. De quoi surprendre et attrister ce supporter français Marco trouvé dans les tribunes.
On pensait que c'était très confidentiel, qu'on s'était trompé de lieu et de ville. Et on se posait même la question si c'était vraiment la Coupe Davis ou un match d'exhibition. Tout est beau, la salle est belle. Mais après, ce qui manque, c'est du monde, de la passion, de la ferveur. Enfin, ce qui faisait la Coupe Davis, quoi. C'est vraiment triste.
Alors même si Joe Wilfried Tsonga avait bien lancé l'équipe de France apportant en moins d'une heure un premier point dans le duel des numéros 2, dans une ambiance d'interclub, Gaël Monfils s'est montré ensuite transparent dans le duel des numéros 1 pour sombrer en 2-7, lui le numéro 10 mondial, face au 69e, le japonais Nishioka, promu numéro 1 en l'absence de Nishikori. Et ce France-Japon, c'est terminé par le double, un double victorieux avec ce deuxième point apporté par Pierre Hugerbert associé à Nicolas Mahut.
Corinne Boulou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid. On vous retrouve jeudi, évidemment. Corinne, jeudi, c'est le prochain rendez-vous. Ce sera contre la Serbie de Djokovic. Et puis c'est au son de cet accordéon que le cercueil de Raymond Poulidor est entré ce matin dans l'église de son village, dans le Limousin Saint-Léonard de Nobla. Sous le regard de très nombreux anonymes et de personnalités du monde du cyclisme rassemblés donc pour ses obsèques, notamment à les anciens coureurs Bernard Thévenet et Bernard Hinault, c'est eux qui portaient le cercueil.
Évidemment, cet hommage à mi-gloire du cyclisme et anonyme qui était évidemment rassemblé et au rendez-vous. Merci beaucoup Sébastien Krebs, l'info 19h30, c'est avec vous donc dans 20 minutes.